Parce que toi, tu as permis que nous puissions partager aujourd'hui ce message. Et nous savons que toi, tu es ici. Et toi, tu vas nous parler. Et tu veux nous orienter selon ta volonté, Seigneur. Nous t'invitons, Papa, d'être au milieu de nous. Afin que nous soyons bénis, Seigneur. Voilà, nous avons ici prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais me présenter. J'ai un prénom de Godet, qui est diminutif de Godefroy. Voilà, donc c'est diminutif de Godefroy. Les gens sont habitués à m'appeler Godet. Le nom c'est Boton Viamatar. Je viens de la République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre. Je suis marié, père de 3 enfants. Alors ici en Europe, ça fait 7 ans que je suis là. Ma famille n'est pas avec moi, elle est restée en Afrique du Sud. Est partie en Afrique du Sud, pas restée parce que j'avais laissé ma famille à Kinshasa. Suite aux difficultés de menaces qu'ils ont eues là-bas à Kinshasa, donc la famille était obligée d'aller se réfugier en Afrique du Sud. En attendant que je puisse obtenir la faveur de ce que nous appelons ici regroupement familial, parce que j'ai le statut de réfugié politique ici en France. Je suis né d'une famille chrétienne, d'un père pasteur, et puis je ne sais pas si j'ai été converti, je ne sais même pas quand est-ce que j'ai été converti. Si je l'ai dit, c'est parce que dans la famille, j'ai trouvé le Seigneur dans ma famille, et suis grandi avec ce Seigneur, et c'est l'éducation que j'ai eue. Dès l'âge de 5 ans déjà, j'ai commencé à prêcher dans l'école des dimanches et j'ai commencé à discerner des songes. Les gens venaient, quand ils venaient chez papa pour qu'ils prient pour eux, et tous ceux qui avaient des songes venaient chez moi et j'ai donné des explications par rapport aux songes. Et le Seigneur m'a ouvert les yeux, c'est-à-dire le Seigneur m'a donné le don de vision, le don prophétique dès cet âge-là de 5 ans. J'ai commencé à prophétiser, à recevoir des visions, des messages prophétiques. À l'âge de 14 ans, je suis allé à l'internat, et là, le Seigneur m'a appelé pour lui servir. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'internat, comme tout enfant qui se sent libre? Avec mes amis, les amis m'ont dit, bon, nous allons au bar, tu n'as jamais vu le bar, l'intérieur du bar? J'ai dit non. Alors, je suis allé, nous sommes arrivés là-bas, et ils m'ont fait goûter la bière. C'était pour moi la première fois de goûter ça, parce que, vous savez, nous, en Afrique, les chrétiens ne prennent pas de la bière, de l'alcool. C'est l'évangile qui a été enseigné là-bas, et donc on ne prend pas de l'alcool. Ce qui fait que, dans ma famille, je n'ai jamais goûté à ça, je n'ai jamais touché à la cigarette, donc je suis grandi comme ça. Je n'ai pas eu le temps de vivre l'enfance comme vivent tous les enfants, et je n'ai pas souci de ça aussi, parce que c'était déjà entré dans ma tête que je devrais servir Dieu, c'est ce que j'aimais, c'est ce que je trouvais bien. Et à l'âge de 10 ans, ça a créé un problème terrible dans notre paroisse, dans notre église, dans ce sens qu'il y a eu des gens qui ont eu des messages comme quoi il faut que Godet soit baptisé. Ben alors, le pasteur a dit que non, on ne peut pas baptiser un enfant de 10 ans. Alors, l'église a eu des messages. Le pasteur a dit, selon notre logique baptiste, on ne va pas baptiser un enfant de 10 ans. Et moi, je me suis mis debout. J'ai dit, pourquoi mais refusez-vous le baptême? Parce que le Seigneur m'a confirmé que je dois être baptisé, parce que bientôt je vais commencer à prêcher la parole de Dieu. Alors, ils m'ont posé quelques questions. J'ai répondu par rapport à la lumière de la parole. Alors, ils ont pris la décision de me faire baptiser à 10 ans. Et 14 ans, quand je suis allé, tel que je vous ai dit, nous sommes allés au bar avec des amis. J'ai essayé un peu de goûter la bière. J'avais trouvé ça un peu amer parce que je ne suis pas habitué à goûter ça. Alors, ils m'ont dit, bon, comme ça, on va t'acheter du coca. Ils m'ont acheté du coca et ils prenaient de la bière. Au retour, la nuit, j'ai fait un songe. Dans ce songe, j'ai vu Jésus. Donc, j'avais mon calendrier et sur lequel il y avait un peu de photos là. Et du coup, j'ai vu, dans mon songe, c'était plus le calendrier, mais c'était Jésus qui était apparu là-bas et qui a éclairé ma chambre et qui m'appelle, qui me dit, Godet, à partir d'aujourd'hui, tu dois me servir. En te réveillant demain, tu feras un jeûne jusqu'à 14 heures et tu iras à la forêt à ma rencontre. Et je viendrai te parler par rapport à ce que tu dois faire. Je suis allé à l'école, 14 heures, je suis allé à la forêt, prier, j'ai commencé à prier. Et le Seigneur m'a montré par une vision des enfants de moins de 5 ans qui s'approchaient de moi et qui commençaient à m'enseigner la Bible. Et après, quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai vu des moineaux qui me parlaient de cet appel que le Seigneur a fait de moi et je comprenais. Donc, j'avais directement l'interprétation de ce que le moineau me parle. Et ces moineaux étaient à 2 mètres de moi dans la forêt. Et après, je suis rentré, je commençais à chanter pour la gloire de Dieu. Je chantais des chants. Alors, tous ceux qui me voyaient chanter, tous ceux qui m'entendaient chanter, tombaient à terre et commençaient à confesser publiquement leurs péchés. Il y avait aussi ceux qui pleuraient, de mamans qui provenaient de chants, qui tombaient avec leur fardeau au dos et qui commençaient à pleurer, confesser à haute voix leurs péchés. Alors, l'aumônier de l'internat est venu me récupérer et tous ceux qui étaient par terre, de maman, de papa qui se sont tenus comme ça et qui pleuraient, qui chantaient jusqu'à l'église de l'internat. Et ils ont fait leur confession auprès de l'aumônier de l'internat. Et c'est ces jours-là que j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu. Donc, j'ai commencé à prêcher à l'âge de 14 ans. Et aujourd'hui, j'ai 44 ans. Comprenez que j'ai prêché pendant 30 ans. Et j'ai implanté la première église du Seigneur à 14 ans. Après, je continuais toujours à implanter. Aujourd'hui, dans ma vie, le Seigneur m'a aidé à implanter 29 églises. Donc, les 6 ans, 7 ans que j'ai passé en France, et j'ai implanté l'église qui est à Tourcoing, qui a commencé à Lille, maintenant nous sommes à Tourcoing. Et c'était en 2007, au mois de décembre, que j'ai eu mes papiers. Et en 2008, je suis allé implanter une église à Londres. En 2009, je suis allé implanter une église à Derby, toujours en Angleterre. Mais quand j'étais à Kinshasa, toutes ces églises, je les ai implantées dans la communauté baptiste, là où mon père était pasteur. Alors, quand je suis arrivé à Kinshasa, j'ai quitté la communauté baptiste, et j'ai commencé à faire la théologie. Et puis, je suis sorti, j'ai commencé maintenant mon ministère à part. Et dans ce ministère, j'avais bâti cette église, implanté cette église, qui sont restées à Kinshasa, qui sont dirigées par 7 pasteurs différents. Et y compris mon père qui a quitté la communauté baptiste de Bandundu, il est venu nous rejoindre. Et il fait partie de ces 7 pasteurs qui continuent à travailler. Et derrière moi, ils m'ont appelé, derrière moi, il a implanté, par son expérience aussi, vous savez, suis né, je l'ai trouvé prêcher la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. Et il a implanté 4 églises après moi. Et il a consacré aussi 4 pasteurs après moi. Donc voilà ce que j'ai laissé là-bas en Afrique. Et quand je suis arrivé ici en Europe, je suis allé prier au centre évangélique de Lille. Et bon, c'était bien passé, mais je ne me sentais pas bien. Et quelqu'un m'a dit, voilà, il y a un pasteur qui aime beaucoup le Saint-Esprit, qui prêche bien, qui dirige une église, qui a de feu le Saint-Esprit, il faut aller le voir. Il est où à Wavrin? Voilà, donc je suis venu ici à Wavrin rencontrer Jean-Luc. Et c'était le premier pasteur blanc que j'ai rencontré en Europe. Ah, il m'a aidé beaucoup par des conseils, on a fait des relations et je m'étais dit, bon, je ne crois pas que le Seigneur m'a envoyé en Europe pour prêcher seulement les Africains. Ah, il me faut avoir une église mixte et je dois prêcher les Européens, mais pas les Africains. Et mon souci, c'est plus de créer une église mixte et je fais un effort pour apprendre un peu la logique du terrain, c'est-à-dire m'adapter à la culture du terrain pour bien enseigner le message. Mais malgré tout, vous allez remarquer, j'ai fait un effort, mais l'accent qui ne veut pas partir. Alors, je crois que vous allez le supporter quand même. Et surtout que nous étions colonisés par les Belges, et même ils ont leur accent, et j'ai ajouté un peu mon accent africain, qui pourra peut-être vous compliquer aujourd'hui, à comprendre ce que j'ai dit, mais par la grâce de Dieu, ça marchera. Alléluia. Voilà, donc, et après, j'ai découvert d'autres pasteurs, et puis il m'a branché à Ambrase Nocker. Je commençais à venir aussi dans l'association mixte catholique-protestante. Et chez nous aussi, on a des frères et sœurs catholiques qui viennent prier aussi avec nous. Donc, on n'a pas de barrière de ce côté-là. Nous savons que nous servons l'unique Dieu. Amen. Et puis, vraiment, je tiens à glorifier Dieu de tout ce qui se passe ici à Wavrin. J'ai béni tous les serviteurs de Dieu qui sont ici dans la salle. Et je sais que nous sommes en train de faire la même mission, combattre l'ennemi, notre ennemi qui est le diable. Et nous voulons que le royaume de Dieu aille de l'avant. Pendant que nous étions en train de chanter, le Seigneur m'avait révélé quelques messages. Qu'est-ce que j'ai vu pendant que nous étions en train de chanter? J'ai vu une conférence. Dans cette conférence, les gens qui étaient dans cette conférence étaient habillés en noir, maquillés en noir. Et en voyant cette vision, j'ai compris vite que c'était une conférence satanique. Et on a continué à chanter, je le voyais discuter, parler de comment combattre l'église de Dieu ici à Wavre. Et donc je crois que si le Seigneur nous a montré ces messages, c'est pour que nous qui sommes enfants de Dieu, que nous puissions beaucoup prier et soutenir l'église de Dieu. Amen. Quand Dieu montre quelque chose, c'est pour que nous puissions prier et résister aussi contre tout ce que Satan pourra monter contre nous. Et j'aimerais vraiment que nous puissions beaucoup prier et soutenir cette ville de Wavrin par nos prières. Le Seigneur m'avait montré aussi par une vision Jean-Luc qui avait une charge. Une charge. Donc, il avait une charge, quelque chose sur sa tête sous forme d'une grande valise. Et donc, tout seul ne pouvait pas se déplacer avec la charge. Il lui faut d'autres personnes pour soutenir cette charge. Et ça, je vous appelle à soutenir ces ministères. C'est que quand le Seigneur montre comme ça, c'est que il y a une nécessité. Dieu a besoin de vous pour soutenir ses ministères. Vous devez, si je mets devoir, c'est parce que nous sommes enfants de Dieu. Donc, nous devons soutenir ces ministères par nos prières. Pourquoi pas financièrement, évangéliquement, dans la parole de Dieu, on prêche la parole de Dieu, on soutient par nos arguments, nous devons soutenir ces ministères. Je crois que même si Jean-Luc ne dit rien, mais ce que le Seigneur m'a montré est vrai, que il a des charges. Parfois, s'il dit rien, il y a des choses qui lui dépassent. Mais il faut que l'Église soit avec lui, que l'Église puisse le soutenir. C'est vraiment très important. Amen. Pendant que tu chantais ici, le Seigneur m'a dit ceci. Il veut te bénir. Mais alors, n'abandonne jamais ta guitare. Parce que la bénédiction va te préoccuper. Donc tu seras préoccupé dans cette bénédiction-là. Et ça sera une bénédiction qui pourra te rapporter beaucoup d'argent. Et qui pourra aussi prendre tout ton temps. Mais le Seigneur te met en garde. C'est lui qui bénit. Mais il ne faut pas abandonner la source de la bénédiction. Il faut continuer avec. Même si tu es élevé, même si un beau jour tu devenais millionnaire, tu gardes ça toujours pour sa gloire. Le Seigneur m'a révélé quelque chose. C'est pour mon frère là-bas. Sur ta poitrine, il est écrit la paix, la joie. Le Seigneur t'a appelé à communiquer la paix et la joie. Même si tu es dans un souci, ou bien tu es dérangé par un problème quelconque, t'en fais pas. Tu as cette grâce-là de communiquer la joie et la paix. Fais-le. Il faut soulager ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont fatigués. Il faut les conseiller, il faut les motiver. Le Seigneur m'a montré une lampe. Excusez-moi de te tutoyer parce que c'est que nous avons un seul Père. Hein? On est tous enfants de Dieu. Le Seigneur m'a montré que tu avais une lampe et tu t'es promené avec cette lampe. Et quand j'ai vu cette vision, j'ai vite compris que tu étais à la recherche de Dieu. Et le Seigneur t'encourage d'aller de l'avant. Allez de l'avant, ne te décourage pas. Alléluia. Je veux que nous puissions partager d'abord le reste de messages, je le donnerai après. Sinon, on ne va pas écouter la prédication. Parce que parler comme ça, je peux parler sans fin. J'ai vu une opposition qui se mettra devant toi. J'ai vu une trahison qui se mettra devant toi. Mais le Seigneur restera avec toi. La vérité finira par triompher. Continue. Continue. Je veux que nous puissions partager sur Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 6. La Bible dit ceci. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible dit ceci, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi dont on nous demande ici, c'est il faut que celui qui s'approche de Dieu, voilà, on a expliqué parce que dans la Bible, quand on parle de la foi, et donc la foi est vraiment vaste, hein, elle est grande dans la Bible, on peut parler de la foi par rapport à la crainte de l'Éternel, la foi par rapport à notre motivation de servir Dieu, la foi par rapport à notre marche, la foi par rapport à notre soutien, la foi par rapport à notre espérance. Ah, ici, on nous parle de la foi par rapport à notre espérance. Et voilà pourquoi on dit car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mets ça dans ta tête que Dieu existe. Si tu l'avais oublié, voilà, il te rappelle aujourd'hui qu'il existe. Dieu existe. Et il est le donneur de solutions pour ceux qui en ont besoin. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je vous ai apporté? C'est la solution par la foi. Au nom de Jésus. Le Seigneur sait tes problèmes. Le Seigneur sait que tu as un souci. Mais il est venu te rappeler aujourd'hui qu'il est capable de résoudre ton problème. Et la Bible là nous dit clairement que tout est possible à celui qui croit. Il n'y a pas une barrière dans la manifestation de Dieu, dans la puissance de Dieu. La seule barrière, c'est ta croyance. Et quand on dit tout est possible à celui qui croit, pourquoi la Bible a-t-elle utilisé l'expression croyance, le verbe croire? Parce que dans la croyance, dans le verbe croire, nous voyons l'information, l'analyse de l'information, la certitude de la conclusion qu'on a eue. Voilà, il y a l'expression croire. Donc si tu dis que je crois à ça, c'est que tu as eu le temps de réfléchir, de t'informer, de calculer, de raisonner. Et voilà, tu as une conclusion, la conclusion te pousse à dire que je crois à ça. Je donne un exemple d'une chaise. Voyez cette chaise, par exemple. La première personne qui a eu l'idée de concevoir la chaise avait des problèmes de convaincre tout le monde. Pourquoi? Parce que les gens se disaient, ça, nous pesons plus que ça. Et on ne croit pas que la chaise pourra nous supporter. Et le monsieur devrait donner des explications par rapport à la résistance de la chaise. Voilà la chaise à quatre pieds et on a fait ça de façon que celui qui se mettra ici ne puisse pas tomber. Alors, la première personne qui est venue s'asseoir, il ne s'est pas assis brutalement. Il voulait d'abord se rassurer si la chaise peut lui supporter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché un peu. Est-ce que c'est résistante? Est-ce que ça peut me supporter? Ça va pas balancer vers derrière. C'est sûr. Alors, pour s'asseoir, il fait un peu d'attention pour ne pas tomber. Okay. Oui. Ah. C'est vrai, ça résiste et puis ça me supporte. La deuxième fois, ça lui a pas posé de problème. Il n'a pas aussi eu le temps de vérifier la résistance parce qu'il a déjà de l'expérience. Voilà, quand il vient, il s'assit. Avec confiance. Troisième fois, il s'est dit, bon, est-ce que... voilà, on a une chaise ici, tu peux t'asseoir. Ah, ok, merci. Il ajoute merci parce qu'il a de l'expérience. Ça, c'est la croyance qui continue à s'augmenter. À augmenter. Et prochainement, quand il viendra, on lui dit, bon, voilà, il n'y a pas une chaise. Et pour que tu te mettes, est-ce que tu peux rester debout? Il se met en colère. Vous m'avez invité, il fallait prévoir une chaise pour moi. Il commence à valoriser la chaise. Pourquoi? Parce qu'il a compris que la chaise peut lui apporter beaucoup de choses. Un réconfort physique et une protection au niveau de son dos. Et donc, il a vraiment beaucoup de confiance sur ça. Voilà pourquoi il se met en colère parce qu'on lui a dit qu'il n'y a pas, on n'a pas prévu une chaise pour toi. Et si j'ai pris cet exemple, c'est juste pour vous expliquer l'expression croyance que vous avez trouvée dans la Bible. Et croyance, partout vous allez trouver dans la Bible, si vous voyez la foi veut dire la conclusion par rapport à ce que l'âme a analysé. La croyance, c'est la conclusion par rapport aux informations qu'on a apportées. Et l'expression croyance est utilisée au niveau de l'âme, certitude au niveau du corps, foi au niveau de l'esprit. Si on dit il faut avoir la foi en Dieu, ça c'est spirituel. Or, si on nous dit d'avoir la croyance, ce n'est plus spirituel, mais c'est humain. Donc tu mets ton intelligence, ta sagesse en jeu, tout ce que tu as comme information, tu vérifies et à la fin tu donnes une conclusion. La conclusion, c'est ce que la Bible appelle croyance. Et quand la Bible dit que nous devons avoir croyance à Dieu, cela veut dire quoi? Nous devons étudier, examiner, voir tout ce que le Seigneur a fait et arriver à une croyance quelconque, donc disons une conclusion. Alors la Bible nous dit que il est impossible, tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire si toi tu crois que Dieu est capable de résoudre ton problème, tu verras que ça sera possible. Et cela veut dire quoi? Dieu de son côté aussi, il ne pourra agir que à l'auteur de notre croyance. Ce que tu crois qu'il sera capable de faire, c'est ce qu'il fera. Ce que toi, tu ne croiras pas de sa capacité, et là, il ne fera pas. Et quand nous prions pour ceux qui sont malades, nous prions pour ceux qui ont des problèmes, nous savons que notre Dieu est capable de tout faire. Mais le traitement de Dieu dépendra de la croyance de chacun de nous. Son traitement dépendra de la croyance qu'aura chacun de nous. Et ici l'expression, il est l'expression rémunérataire. Quelque part, on peut aussi l'utiliser comme consommateur de notre foi. Parce que tu es venu avec ta foi, et lui consomme la foi. Tu crois que Dieu peut te guérir, il vient, il consomme ça, et il te donne la guérison. Tu crois que Dieu peut résoudre ton problème, il consomme ça, il te donne la solution. Et si toi tu crois pas, il n'a rien à consommer, et tu ne seras pas aussi rémunéré. Amen. Je vais vous donner un témoignage. Un beau jour, je suis allé à Paris. J'étais invité par un monsieur. Le monsieur, c'est pas vraiment un frère dans le Seigneur. C'est un monsieur qui vivait dans l'adultère, qui avait son épouse à Antilles. Et le monsieur qui avait une copine ici à Paris. Et la copine m'a appelé par téléphone pour me dire, voilà, est-ce que tu peux venir prier pour mon copain, mon petit copain. Et si j'ai pris cet exemple, c'est pour vous dire que si Dieu guérit un adultère, hein, à plus forte raison, vous qui êtes en lui. Donc je crois qu'il fera plus, parce que vous le croyez, vous le craignez. Alors voilà ce que le Seigneur a fait à cet adultère. Le monsieur m'a appelé, je suis allé à Paris, il était un grand professeur et il a connu un accident de circulation, du coup il est devenu paralytique. Il est allé en Australie, arrivé là-bas en Australie, les médecins ont tout fait pour sa santé, ça n'a pas marché. Il est revenu à Paris, on a tout fait pour qu'il soit guéri et ça n'a pas marché. Alors sa copine qui va m'appeler, voilà, est-ce que tu peux passer parce que quelqu'un m'aurait dit que si tu pries, parfois Dieu agit, il guérit aussi le malade. Et si tu peux venir prier pour mon petit copain. J'ai pris mon TGV, je suis arrivé à Paris et sans tenir compte de son histoire de petit copain. Je l'insiste, si Dieu a guéri un adultère, qui n'a pas connu sa parole, donc il te guérira aussi aujourd'hui. Je suis arrivé, le monsieur était toujours assis, et il m'a dit, voilà, j'ai des jambes qui ne bougent pas. Le médecin m'a dit que d'ici une semaine, je vais rentrer chez moi, parce que ils ont tout fait, et puis ça n'a pas marché. Je lui ai dit, bon, voilà. Je vais te dire une chose, moi je ne fais rien. C'est lui qui guérit, c'est le Seigneur. Je lui ai donné le passage de Matthieu chapitre 28, verset 20. D'abord, je commence au verset 18. Jésus s'étant approché, l'air parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. » Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je lui ai dit ceci, que Jésus a dit qu'il est avec nous. Il est avec nous. Jusqu'à la fin du monde. Je lui ai fait lire ça. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je lui ai dit, Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il m'a dit, mais Jésus a été enlevé. Je lui ai dit, si. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus vivait avec ses disciples, Jésus n'était pas omniscient ni omniprésent. Parce qu'il ne pouvait guérir que ceux qui étaient tout autour de lui. Il ne pouvait résoudre que le problème de ceux qui étaient tout autour de lui. Alors maintenant, il est allé à la droite du Père. Depuis ces jours-là, il est devenu omniscient et omniprésent. Ce qui veut dire qu'il est présent partout. Il est maintenant présent partout. Et voilà pourquoi dans sa Bible, il nous dit que je suis autant présent. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, Jésus est avec nous. Je le répète tel que vous êtes là. Jésus est avec vous. Et il restera avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec vous. Il est avec nous. Il est ici. Et j'ai dit à ces messieurs, Jésus est avec nous. Alors, tu te souviens encore à l'époque de Jésus, tous ceux qui s'approchaient de lui, qui lui disaient, qui lui posaient leurs problèmes, qu'est-ce qu'il faisait? Le professeur m'a dit, il est guérissé. Moi, je lui ai dit, bon, il est avec nous. Dis-lui, Jésus, guéris-moi. Il a dit, Jésus, guéris-moi. Je lui ai dit, tu as bien dit, mais j'ai l'impression que tu récites ce que moi j'ai dit. Oublie ma présence et crois qu'il est ici avec nous et répète ça, dis-lui. Oublie-moi, mais dis-lui que Jésus, je sais que tu es ici, guéris-moi. Il a répété ça, il a dit, Jésus, je sais que tu es ici. Tu es ici, guéris-moi. Si tu peux faire quelque chose pour moi, je vais marcher. Après, il a ouvert ses yeux. Il m'a dit, maintenant, on va faire quoi? Moi, je lui ai dit, mais parce que tu lui as dit que guéris-moi, certainement, il a dit, sois guéri. Parce que c'était ça son habitude. Il disait toujours, sois guéri, sois guéri, sois guéri. Donc, il t'a dit aussi, sois guéri. Il m'a regardé. C'est vrai ça? Il m'a dit, sois guéri. J'ai dit, si. Alors, s'il m'a dit, sois guéri, c'est que je suis guéri. Moi, je lui ai dit, oui. Ben alors, si je suis guéri, qu'est-ce qui prouve que je suis guéri? Moi, je lui ai dit, alors, qu'est-ce qui prouve que tu es guéri? Normalement, c'est à toi de prouver que tu es guéri. Est-ce que tu le crois, vraiment? Il m'a dit, ah, si Jésus a dit que je suis guéri, sois guéri, donc que je suis guéri. Je lui ai dit, alors, comme ça marche. Il a essayé de bouger ses jambes. Il commençait à trembler. J'ai dit, plié, il a plié. Allongé. Plié encore. Et c'est fini. Mets-toi debout. Je l'ai touché. On a tourné dans la chambre. On a tourné dans la chambre. Sa copine, sa petite copine, qui a appelé le médecin est venu. Le médecin qui me regarde, qui regarde le professeur qui est en train de marcher, il m'a dit, monsieur, vous êtes qui? Je lui ai dit, je suis un frère dans le Seigneur. Ah, vous êtes chrétien? J'ai dit, oui. Il m'a dit, ah, bon, c'est bien. Et, bon, c'est à féliciter. Il a regardé le professeur, il a dit, c'est vraiment, c'est bien ce que le monsieur a fait. Et il t'a encouragé, donc donc il a essayé de stimuler ta force intérieure. Voilà, donc cette force t'a poussé à marcher. Je lui ai regardé, je lui ai dit, alors si toi tu connais ce que moi j'ai fait, fais-le pour eux, les autres malades qui sont dans d'autres chambres. Après je lui ai dit, normalement tu allais me poser des questions pour savoir ce que moi j'ai fait pour que ce monsieur parle. Ce n'est pas à toi de m'enseigner. Je sais que tu es grand professeur ici, tu traites le paralytique. Mais tu n'as pas réussi à guérir ce monsieur, ce professeur. Alors donc, c'est à toi de me poser des questions, comme ça je vais t'expliquer. Voilà, monsieur le médecin. Le vrai problème c'est quoi? Il y a Jésus de Nazareth qui est venu ici dans la salle et qui a guéri ce professeur. C'est pas sa force intérieure. Si c'était sa force intérieure, donc toi tu le connais, alors va le faire dans d'autres chambres là où il y a de paralytiques, comme ça ils pourront marcher aussi. Et il m'a dit bon, c'est pas un problème. Il est sorti, il est parti. Amen. Alléluia. Donc voilà ce que le Seigneur a fait à Paris. Pour démontrer que il est vivant. J'étais invité la semaine passée, vendredi, samedi. Ils avaient invité un prédicateur de Cameroun dans une église à Villeneuve-d'Ascq. Le prédicateur n'était pas venu, on lui a compliqué, il n'a pas eu son visa. Alors la dame m'appellera. pour me dire, voilà, est-ce que tu peux nous aider, tu peux remplacer notre orateur, il n'est pas là, si tu peux faire quelque chose, parce que les enfants de Dieu sont informés, ils attendent, ils avaient cotisé tout ça, mais malheureusement, ils sont déçus. J'ai dit, bon, je vais venir. Arrivé là-bas, j'ai trouvé la dame qui m'a appelé, c'est elle qui dirige l'église, son époux qui était assis sur un fauteuil roulant. Le pasteur est assis sur le fauteuil roulant. Ça fait cinq ans que ce pasteur a eu un problème au niveau de sa tête, je crois, parce que son épouse m'a dit, et le monsieur s'est retrouvé un beau jour par terre. Il a perdu connaissance. Une semaine après, il a repris sa connaissance et puis il pouvait plus marcher à Villeneuve-d'Ascq. Et quand je suis arrivé, j'ai dit vraiment, on m'a donné la parole, j'ai dit, je suis en colère. Je suis en colère, je peux pas voir ça, je peux pas voir un homme de Dieu, un serviteur de Dieu assis comme ça. Et vraiment, ça me dérange. Alors, je vais changer la prédication. Je vais vous parler de Jésus qui est vivant. Je l'ai rappelé ce que je vous ai dit ici, comme quoi Jésus était vivant. J'ai dit au pasteur, Jésus est vivant. Dis Jésus, je veux marcher aujourd'hui. Dis je veux marcher aujourd'hui. Le pasteur a dit, Jésus, je vais marcher aujourd'hui. Je lui ai dit, comme tu as dit que Jésus, tu as dit à Jésus, tu veux marcher, certainement il fera quelque chose dans ta vie. J'ai continué ma prédication. Après, j'ai prié pour l'église. À la fin, il y a une sœur qui a été guérie. Le pasteur qui était assis s'est mis debout. Il a commencé à tirer sa jambe gauche sur la chair. Il est venu. Il a récupéré le micro qui était sur la main de son épouse pour faire la prière finale. Et toute l'église s'est mise debout, acclamer le Seigneur. Et on était tous dans la joie de voir ce que le Seigneur Jésus-Christ avait fait. Le vrai problème, c'est quoi? Parfois, nous ignorons la présence de Dieu parmi nous. Nous croyons qu'il est en nous, dans nos cœurs. Et nous ne croyons pas qu'il continue à faire ce qu'il a, il avait fait avec ses disciples. Ça, nous l'ignorons. Si on pêche, on dit, voilà, on a blessé Jésus. Ça, on le croit. Mais nous ne croyons pas que le même Jésus que nous blessons, le même Jésus que nous voulons qu'il soit en paix, nous confessons nos péchés pour que Jésus soit à l'aise dans nos cœurs. Mais nous ne croyons pas que le même Jésus est capable de résoudre nos problèmes. Et qu'est-ce qui a fait ça? C'est parce que la science nous a facilité beaucoup de choses. On ne croit plus au miracle de Dieu, on ne croit plus à la guérison divine, parce que la science nous a facilité beaucoup de choses. Mais Dieu n'est pas contre la science. C'est lui qui a donné l'intelligence aux médecins, et c'est lui qui nous a facilité. Certainement, si j'ai maux de tête, je pourrais prendre mes paracétamol. J'en ai aussi chez moi. Le matin, avant de venir ici, j'ai frotté mes Dexeryl, parce que si je ne le mets pas, donc ça va gratter partout. C'est Dieu qui a donné l'intelligence aux médecins. Mais ce que je vais vous dire, c'est quoi? Là où l'intelligence de l'homme est limitée, c'est là où commence l'intelligence de Dieu. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Nous qui sommes en Christ, nous avons encore d'autres chances, d'autres grâces. C'est-à-dire, là où les médecins ne peuvent rien faire, donc il faut brancher sa foi en Dieu, et c'est Dieu qui fera. On est sans limite. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Je vais vous donner encore un autre témoignage. Je connais une dame. Cette dame était diagonaise dans son église. Elle était paralytique. Donc, elle exerçait très bien l'œuvre de Dieu. À un moment donné, et vous le savez, Il a eu toujours son problème, donc un petit problème, un petit souci avec sa tête. Elle s'est retrouvée par terre et après, donc elle ne pouvait plus marcher. Et en Afrique, vous savez, avoir un fauteuil roulant, c'est pas facile. D'ailleurs, c'est cher. C'est pas comme ici que la pharmacie t'est prête, après tu pourras remettre. Non. Là-bas, tu payes ça pour toi. Et pour en payer, il faut avoir beaucoup d'argent. D'ailleurs, à manger, tu ne peux pas en avoir parce que tu n'as pas d'argent. Pourras-tu prendre de l'argent pour t'investir, avoir un fauteuil roulant? Ça, c'est difficile. Et ça vaut même prix qu'une voiture d'occasion en Afrique. Alors, chaque fois, son époux l'amenait à l'église, chaque dimanche. 6 ans après, la famille est fatiguée. On lui a dit, bon, le Seigneur est partout, nous allons à l'église. Ils sont partis, la dame est restée. 7e année, elle est restée. 8e année, donc elle a fait 3 ans, elle ne pouvait plus aller à l'église. Pourquoi? Parce que la famille est fatiguée. Le frère va tout seul. Et quand il va rentrer, il lui donnera le verset qu'on a donné à l'église. Voilà, nous avons chanté ça, nous avons étudié sur tel passage. Le dimanche, 9h, voilà l'église, la famille qui va à l'église. La dame est restée. Elle a lu ce passage. Et elle a dit, Seigneur, tes écritures me disent que tu es encore vivant. C'est que tu es ici avec moi. Guéris-moi, Seigneur. Après avoir dit, Seigneur, guéris-moi. Elle regardait comme ça, mais elle voyait comme s'il y avait quelqu'un à côté de lui, à côté d'elle. Quand elle a regardé, la personne a disparu. Elle a fait encore semblant de regarder tout droit. L'image était toujours là. Ça a disparu. Après, elle a dit, je sais que tu es là. Merci de m'avoir visité. Et après, l'image a disparu. Elle s'est dit, ah, je suis fatiguée de dormir comme ça, si je peux changer. Si ces gens étaient ici, pouvaient me bouger un peu, parce que ça fait mal. Alors, elle a dit, si je peux me débrouiller un peu, elle a bougé. Après, elle s'est dit, oh, j'ai fait ça comment pour bouger? Ah bon? Le bras commence à bouger. Donc, Jésus m'a guéri. Elle a bougé l'autre. Elle s'est mise debout. Elle s'est lavée. Elle a suivi l'église qui était en train de louer. Le pasteur était devant avec d'autres chantres. On a vu cette dame entrer, toute seule. Et tout le monde était en train de sauter. L'église a remarqué son entrée. Alors, ce jour-là, on n'a pas prêché la parole de Dieu. C'était elle qui était la prédication du jour. Si je vous l'ai dit, c'est pour vous confirmer que Jésus est vivant. Amen. Jésus est vivant. Le dernier témoignage en Algérie, ça s'est passé cette année ici. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. On a envoyé ça, on m'a envoyé ça par un frère de l'Espagne. Un monsieur avait décidé de tuer son épouse et ses 2 enfants. Il s'est jeté sur l'épouse qui a pris fuite, et le monsieur a attrapé ses enfants, il les a amenés à la forêt, et là-bas, il les a ligotés, il a creusé un puits, il a jeté ses enfants à l'intérieur, il a dit, je ne vais pas les tuer parce que je ne vais pas voir mes enfants mourir, je préfère les enterrer comme ça, ils pourront mourir après. Et comme ça, j'irai chercher mon épouse, je la tuerai et puis je vais me faire tuer. Le monsieur a rempli cette puits de la terre Et après, le monsieur est parti. La femme est allée se plaindre auprès de la police et on a arrêté le monsieur. Le monsieur qui dit non, c'est pas lui, donc ça doit être son épouse. Parce que la femme a dit, certainement, comme il a voulu me tuer, il est dit, il le répète, certainement, il a tué les deux enfants. Alors, on a fait un peu d'enquête. Une dame du quartier qui va révéler à la police comme quoi, j'ai vu ce monsieur partir comme ça, à bord d'une voiture avec ses enfants. Alors, la police est allée chercher, partout fouiller, ils ont remarqué que on avait creuser quelque part ici, c'est comme si on a remis la terre et puis on a mis un peu de feuilles séchées là-bas. Et quand ils ont creusé, ils ont enlevé ça, ils ont fait sortir des enfants qui ont passé des jours là-bas sans mourir. Or, scientifiquement, ça ne peut pas s'expliquer parce qu'il n'y a pas d'air là-bas, il n'y a pas la respiration. Alors, quand les enfants sont sortis, ça a bougé l'Algérie et le premier enfant, disons le cadet, a pris la parole pour dire que voilà, nous avons vu un monsieur qui a été avec nous. Le monsieur avait deux plaies ici et le monsieur était vêtu en blanc et le monsieur est venu vers nous. Le monsieur est venu avec sa chaise et il était avec nous, il nous parlait, il chantait pour nous. Et il nous mettait vraiment très à l'aise. Et la grande aussi a dit, effectivement, moi j'ai vu le monsieur, et il était là avec nous, et quand il vous a vu venir, alors il est parti. Les journalistes, c'était une femme qui a pris la parole devant la télévision Al Jazeera, pour dire que voilà, la seule personne que nous savons, nous connaissons historiquement, qui avait des plaies ici, c'était Issa. Donc, en arabe, Jésus. Donc, c'est Issa. Et ça doit être Issa qui était avec ses enfants. Et ce miracle est réel. C'est que Issa était avec ses enfants, les a protégés, parce que ça ne peut pas se faire. Scientifiquement, on ne peut pas l'expliquer. Et après, la religion l'air a interpellé de ne plus parler de ça. Qu'on étouffe ça. C'est pour vous rassurer encore une fois que Jésus-Christ est vivant. Et il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Est-ce que parmi nous, il y a des gens qui sont malades ici? Il y a des gens qui ont des douleurs ici. On va prier. On va prier pour ceux qui sont malades. On va prier pour ceux qui ont des problèmes, des soucis. On va prier pour ceux qui veulent que Dieu puisse leur donner la paix, la joie. Et il le fera. C'est pas moi. C'est pas vous aussi. Mais c'est qui? Jésus. Il est avec vous. Il est avec vous. Il est à côté de vous. Que chacun de nous ferme ses yeux. Dis-lui, Seigneur, il faut pas prier, mais parle avec lui. Parce que prier aujourd'hui, ça devient une chanson. Voilà pourquoi j'aimerais que vous puissiez parler avec lui. J'ai préféré l'expression parler avec Dieu. Parler avec Jésus, il est à côté de toi. Si tu veux te marier, tu lui dis, Seigneur, je vais me marier. Et sa réponse sera la paix que tu auras dans ton cœur. Si tu te sens lié ou possédé, tu lui dis, Seigneur, je vais être délivré. Tu sentiras derrière cette prière que nous allons faire que le Seigneur va te libérer. Soit tu le verras par une vision, si pas par une vision, tu sentiras un changement dans ta vie, dans ton corps, quelque chose qui va bouger. Si ça ne bouge pas, un grand changement, soit une paix, soit une joie, soit une fraîcheur, soit une chaleur, ça dépend du langage auquel il voudra utiliser pour te parler. Mais ce qui est vrai, qu'il veut te délivrer aujourd'hui. Il y a des gens qui sont bloqués par sur le plan financier. Tout ce qu'il fait ne progresse pas. Le Seigneur est prêt à te délivrer, à te libérer aujourd'hui. Il y a des gens qui sont menacés par des soucis. Moi, je te rassure qu'aujourd'hui, il prend tes problèmes en main. Et bientôt, tu vas témoigner. Il va changer ta vie. Il va ouvrir toutes les portes qui ont été fermées. Même si tu te considères laide, tu te dis, je ne suis pas belle. Tu te dis, peut-être l'âge a avancé. Tu te dis, peut-être tu n'as pas de relations. Mais moi, je te dis que Jésus est l'unique relation pour toi. Il va tout résoudre et te donnera la paix. Et dis maintenant, Seigneur, guéris-moi. Dis, Seigneur, guéris-moi. Dis-lui, Seigneur, donne la solution. Je veux me marier. Je veux me marier. Je veux de l'argent. Je veux la paix. Seigneur, donne-moi la joie. J'ai perdu la joie de vivre. Je veux être guéri. Guéris-moi. Guéris-moi, Seigneur. Dis-lui. Et maintenant, moi, je vais prier. Seigneur, nous te disons merci. Parce que nous savons que tu es avec nous. Nous savons que tu es ici. Et tu as compris ce que nous avons demandé. Chacun de nous a posé son problème. Et chacun de nous veut vivre ta grâce. Que le malade soit guéri, maintenant, dans le nom de Jésus. Que le malade puisse sentir un grand changement dans leur vie. Que les douleurs disparaissent, dans le nom de Jésus. Que les douleurs disparaissent, dans le nom de Jésus-Christ. Que la maladie puisse quitter, que les chaînes tombent au nom de Jésus. Seigneur, libère tous ceux qui sont possédés. Tous ceux qui sont possédés soient libérés dans le nom de Jésus-Christ. Que les possessions libèrent leur vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les démons de blocage, les démons de célibat, l'esprit des morts, l'esprit des suicides, puisse libérer tes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Les angoisses puissent partir maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Des angoisses puissent partir maintenant au nom de Jésus-Christ. Laisse que la joie puisse souffler dans leur cœur. Que la paix et la joie puissent remplir leur cœur. Que la joie et la paix puissent remplir leur cœur. Que la guérison puisse se descendre. Que le changement touche, Seigneur. Touche tes enfants, touche-les dans le nom de Jésus, touche-les dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de ce que tu as fait. Merci pour la guérison. Merci pour ta manifestation. Merci pour la solution que tu as donnée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Merci. Merci Seigneur. Qui a senti quelque chose? Juste soulever son doigt. Que Dieu soit loué. 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Il est bon. Je sais qu'on n'a pas le temps de suivre tous les témoignages, mais ce que vous avez senti en vous, c'est la présence de Jésus. Et je vais encourager toute l'Église. Si quelques-uns ont senti cette présence, c'est juste pour nous confirmer qu'il a donné aussi la solution à tout celui qui a fait partie, à tout celui qui a participé à ce culte. Même si tu n'as rien vu, crois seulement. Amen. Parce que quelques-uns ont soulevé leurs doigts. Cela prouve qu'ils ont senti la présence de Dieu, de Jésus-Christ. Et donc, il est avec nous. Ça se confirme encore. Que Dieu vous bénisse.